Panorama Économique.
Des hommes d'affaires belges représentant 120 entreprises ont séjourné à Kinshasa, Lubumbashi et Brazzaville. Ils sont venus scruter les possibilités d'affaires dans le secteur de la santé, les infrastructures et dans l'agroforesterie. Le ministre délégué aux finances invite les députés à s'approprier au mieux la nouvelle loi des finances publiques de la RDC, cette loi qui met un accent particulier sur les résultats. Il a dit mardi à Kinshasa l'ouverture de la formation organisée par le comité de réforme des finances publiques et le Fonds monétaire international. Une nouvelle stratégie pays de la BAD pour les 5 prochaines années en RDC, la Banque africaine de développement a entrepris depuis le début de cette semaine des concertations avec les différentes couches de la population. Bonjour monsieur, madame et bienvenue à Panorama économique sur Radio Okapi. Votre émission reçoit aujourd'hui Serge Toumba. Il est le président de l'Association des hommes d'affaires de la diaspora africaine et c'est avec lui que nous allons analyser toute l'actualité économique de la semaine. Monsieur Serge Toumba, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et devant ce micro, Daniel Tambinzoni et Jocelyne Moussa-Opondé pour vous présenter la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi.
Panorama économique, le dossier.
Et nous allons commencer cette rétrospective par la grande info de la semaine, s'il faut le prendre comme ça, la visite de 120 chefs d'entreprise belges à Kinshasa et à Lubumbashi.
Les discussions B2B ont commencé lundi après-midi. La matinée était consacrée à une séance de description de l'environnement économique de la RDC. Le Premier ministre d'abord et à sa suite la Banque mondiale, l'Union européenne et les miniers présents à la cérémonie.
C'est le moment de retrouver dans ce studio notre invité, Monsieur Serge Toumba, encore une fois bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi cette visite d'hommes d'affaires belges au Congo. Quelles peuvent être les bonnes chances d'une mission économique comme celle-là, les hommes d'affaires congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier des échanges comme ceux qu'il y a eu toute cette semaine?
Je voudrais d'abord commencer par dire qu'il est important ici au Congo que nous puissions, surtout les chefs d'entreprise congolaises, puissent se présenter en ayant des opportunités vraiment favorables ici en RDC. Malheureusement, ce qui se remarque lorsque des chefs d'entreprise étrangers viennent ici, nos amis congolais se présentent plus comme demandeurs, comme mendicité. Or, aujourd'hui, nous avons besoin plus d'un transfert de technologie. C'est ce qu'il faut négocier, c'est le transfert de technologie ici.
Ça veut dire
qu'il faut négocier un partenariat pour que les pays développés puissent amener des machines technologiques ici et que nous puissions être à même de transformer nos produits, nos matières premières en produits finis, que nous commercialiserons sur l'ensemble du territoire, mais que nous pouvons aussi exporter.
Oui, vous estimez que ce n'est pas ce qui est encore fait jusque-là?
Ce n'est pas ce qui est fait jusque-là. Vous savez, ces gens, quand ils viennent ici, ils viennent vous vendre leurs produits. Hein, cette mission est venue avec des commerçants simplement pour vendre des produits et les ventes qui se font.
Ben justement, c'est ça les affaires aussi.
Oui, c'est ça les affaires, mais avec quelles conditions? Donc les conditions sont très lourdes. Ils vont vous demander, ils vont signer des contrats en disant que vous, que les entreprises ici congolaises puissent payer peut-être 60% déjà à l'avance et que à la réception puissent payer le reste. Donc les conditions sont déjà très difficiles, très lourdes, parce que les problèmes que nous avons au niveau de nos banques ici, c'est que les instruments ou les lettres de crédit que nos banques peuvent émettre pour garantir les fonds ne sont jamais acceptés par ces sociétés. Donc ici, c'est bien cette mission économique, mais moi je pense que c'est plus une mission, étant belge moi-même et vivant là-bas, c'est plus une mission qui rentre dans un contexte politique pour essayer un peu d'amadouer les amis congolais, voir qu'est-ce qu'on peut retirer. Mais il n'y a pas vraiment un esprit de partenariat là-dedans. Le partenariat doit être un transfert intellectuel de technologie ici.
Mais vous parlez plus, vous dites que les hommes d'affaires congolais sont plus demandeurs. Qu'est-ce qu'ils demandent concrètement?
Voilà, le financement. On demande de l'argent. Quand ils voient des missions économiques venir comme ça, on se porte comme on est faible. on voit que voilà, ils viennent 120 entreprises belges, ils vont venir avec des sacs d'argent.
Pas d'argent, mais quand on parle de partenariat, ça veut dire quand vous dites que les Congolais doivent financer à hauteur de 60%, quelque part c'est l'argent, et les Belges aussi de leur côté apportent de l'argent aussi, quelque chose.
Non, les Belges apportent...
De la technologie.
Même pas la technologie, ils apportent un service ou un produit à vendre, c'est
mais
tout.
Mais si les Congolais se trouvent dans une position de faiblesse, pour l'instant les dans entreprises congolaises ont des problèmes de financement, ça c'est un problème réel. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être commencer d'abord à résoudre ce problème de financement au sein des entreprises congolaises, se trouver dans une position de force et... chercher à avoir des partenariats pour mieux négocier dans les jours à venir.
Mais c'est ce que j'ai dit, madame. Donc, justement, lorsqu'on a un problème de financement, il faut commencer par chercher ce financement soi-même, donc s'auto-financer, n'est-ce pas ? Dans les affaires, lorsque vous rentrez en pourparler avec un partenaire et que vous commencez déjà à parler du financement, ça fait peur au partenaire, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui va garantir son argent ? Quelle sécurité qu'il aura ? Où il y aura un retour d'investissement, ça fait peur. Mais nous, par exemple, au niveau de notre ONG et au niveau de notre structure, notre plateforme financière que nous sommes en train de monter, nous avons des outils qui peuvent permettre à nos entreprises congolaises de s'autofinancer et de venir en tant que vainqueurs. Et pas en tant
et
que...
Vous proposez déjà vos produits.
Ok, on va y arriver. Le temps de prendre ce deuxième dossier de la semaine. La Banque africaine de développement a entamé lundi des consultations avec les différentes couches de la population congolaise. Cela en vue de préparer sa nouvelle stratégie pays.
Ce programme couvrira la période 2013-2017, mais faisant un petit bilan de la stratégie qui arrive à terme, Valentin Zongo, représentant résident de la BAD en RDC, affirme que son institution avait mobilisé au moins 529 millions de dollars investis dans le financement de projets aussi bien d'utilité nationale que provinciale. Il est au micro de Agathe Mponaelema.
En termes de répartition, il y aurait 372 millions pour l'appui aux opérations nationales et à peu près 141 millions mobilisés pour les opérations régionales. En plus de ces montants, il y a eu aussi à peu près 13 millions de dollars américains mobilisés pour soutenir les projets des forêts du bassin du Congo. Qu'est-ce qu'on a eu comme réalisation physique avec ces sommes? Nous avons été en mesure de construire ou de réhabiliter environ 164 000 km de routes, 140 000 km de pistes ont été réhabilitées, 375 sources d'eau ont été aménagées, 32 marchés ont été construits, 42 entrepôts pour le commerce au niveau des différentes dessertes et 3000 mètres linéaires de canalisation installés au profit d'environ 150 000 personnes supplémentaires en termes de dessertes en eau potable et assainissement.
Retour sur ce plateau de Panorama économique où nous recevons M. Serge Toumba qui commente et analyse l'actualité avec nous. M. Toumba, vous avez suivi la BAD qui veut mettre en place un nouveau programme pour les 5 prochaines années en RDC. Mais plus loin dans cette interview, le représentant résident de la BAD regrette le fait que l'économie congolaise avec toutes ses potentialités n'arrive pas à décoller parce que ça ne crée pas encore des emplois jusque-là. Et pour cette nouvelle stratégie, elle veut mettre l'accent sur les infrastructures qui pourraient peut-être créer des emplois pour la jeunesse. Et s'il vous était par exemple demandé de donner un conseil à la Banque africaine de développement, qu'est-ce que vous lui proposerez pour répondre justement aux besoins des Congolais?
Oui, eh bien, déjà les initiatives sont très bien, c'est à féliciter des initiatives comme ça. Ce que nous pourrions proposer à cette Banque africaine de développement, c'est d'attaquer les trois agents économiques. Donc, commencer par l'État. L'État, ce serait renforcer justement la collaboration avec l'État dans les infrastructures, comme le monsieur l'a dit, donc créer des routes, parce que les routes, c'est un facteur économique très important. Ça peut permettre que nous puissions produire nos aliments et les distribuer, ouais. Voilà, dans le territoire national. Ce serait investir sur le deuxième agent économique qui sont les entreprises. Et c'est très important, il faut renforcer nos entreprises congolaises. Il faut que nos entreprises puissent être dynamiques et que nous puissions créer la compétitivité dans notre pays. Vous savez, la compétitivité, c'est ça qui est un facteur de développement très important. Ici, nous sommes dans un pays où il n'existe pas de compétitivité. Les entreprises n'investissent pas dans la recherche, n'est-ce pas ?
Tout le monde veut faire peut-être la même chose.
Tout le monde veut faire la même chose. Il n'y a pas assez d'initiatives, mais c'est normal. Il faut encourager cela. N'est-ce pas? Et ce sont les banques, ce sont les rôles des banques pour essayer de dynamiser les entreprises, les rendre fortes et leur donner les outils qu'il faut. Et alors, le troisième agent économique qui est la population, il faudrait que ces banques puissent mettre aussi des programmes de microcrédit, n'est-ce pas? Qui puissent favoriser les agents consommateurs. Il faudrait aussi qu'ils puissent investir beaucoup dans l'éducation. C'est quelque chose de très, très, très important. C'est un investissement à long terme, mais la population doit être éduquée, doit être formée et doit être informée.
Alors nous allons prendre le dernier dossier de la semaine. Les députés nationaux, membres de la Commission économique et financière face à la nouvelle loi financière de la RDC.
Le comité de réforme des finances publiques et le Fonds monétaire international ont organisé à leur intention une séance académique pour qu'ils s'imprègnent de la nouvelle loi. Le ministre délégué aux Finances, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, explique le bien fondé de cette formation. Patrice Kitebi est au micro de Agathe Mpona Elema.
Un des résultats principaux attendus de l'atelier, c'est une meilleure appropriation par les principaux acteurs, en l'occurrence les députés et les sénateurs, de la loi sur les finances publiques. C'est important, les honorables parlementaires ont le devoir constitutionnel de contrôler l'exercice du pouvoir exécutif. C'est important qu'ils s'approprient des exigences de cette nouvelle loi, de manière à ce qu'ils soient capables de mieux l'appliquer dans leur travail parlementaire. Ça, c'est le principal résultat qui est attendu de cet atelier.
Et quelles sont les particularités de cette nouvelle loi sur les finances publiques?
Je pense que pour l'essentiel, c'est une loi qui met un accent particulier sur les résultats. Ce qui est important désormais, ce n'est pas les moyens qui sont mis à la disposition, mais c'est une logique qui privilégie plutôt l'atteinte des résultats. Et tous les gestionnaires, puisque désormais les différents ministres sectoriels deviennent les responsables de l'exécution des programmes sectoriels, ils doivent rendre compte au Parlement des résultats qu'ils ont atteints avec les moyens qui ont été mis à leur disposition par l'État. Ça, c'est un élément essentiel. Deuxièmement, la nouvelle loi s'inscrit dans une logique de pluriannualité, c'est-à-dire le budget ne sera considéré que comme la tranche annuelle d'un programme pluriannuel. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel qui vient innover un peu la pratique en matière de loi de finances publiques dans notre pays. Donc, chaque ministre sectoriel devient d'abord l'ordonnateur de son budget, et c'est à lui de rendre compte des résultats qui sont atteints par l'utilisation des moyens mis à la disposition à travers le gouvernement.
Une chose retient notre attention dans cette interview, dans ces propos du ministre Patrice Kitebi, M. Serge Toumba, c'est que, quels que soient les moyens qu'on vous donne, nous attendons les résultats. On vous donne 5 000 $, on vous dit construisez-nous un immeuble de 10 étages. Allez-y, présentez-nous un immeuble de 10 étages, c'est-à-dire les résultats comptent, pas les moyens. C'est possible, on y arrivera?
Logiquement, on peut dire non. Mais je vais dire théoriquement et pratiquement, on doit y arriver. Parce que au niveau où nous sommes, la RDC,
peut-être qu'on a beaucoup d'argent, mais qu'on ne sait souvent pas bien l'utiliser. Hein. Et alors, c'est une façon de faire pression sur les dirigeants, les gouvernants, pour que les choses aillent assez mieux.
Oui, moi, je pense toujours que les choses peuvent aller assez mieux. C'est un problème de mentalité. C'est tout simplement ça le problème ici au Congo. C'est un problème de mentalité, de volonté, d'amour pour le pays. Donc, ce sont des lois qui sont à féliciter, qui sont mis pour essayer de trouver justement des solutions à renforcer le développement de notre pays. Et moi, je pense qu'il est possible, rien n'est impossible, il est possible de pouvoir développer ce pays avec le peu et en creusant un peu dans notre tête. Parce que nous, notre pays, nous avons beaucoup de richesses, mais vous avez des pays qui n'ont pas de richesses, mais qui ont su
plus avancer que la RDC.
Beaucoup,
justement.
Voilà.
Mais est-ce que pour atteindre un objectif, il ne faudra pas d'abord bien étudier, analyser le projet pour savoir quels moyens il faut.
Tenir compte de moyens aussi.
Bien sûr.
Parce qu'on ne peut pas seulement miser sur le résultat sans tenir compte des moyens qu'on a.
Moi, je pense que cette loi, à mon avis, ça a plus été élaboré vraiment pour continuons à pousser nos dirigeants à essayer de mieux faire, parce que vous pouvez le voir même dans le passé, il y a eu beaucoup de budgets qui sont sortis pour l'une ou l'autre programme, mais qui n'a jamais connu le succès. Donc je pense que c'est plus pour renforcer un peu et essayer de doter nos dirigeants de l'esprit peut-être de compétitivité, l'esprit de résultats. Parce que c'est ça, vous savez, dans le monde occidental, c'est les résultats qui comptent. On s'en fout du budget. On vous donne quelque chose, il faut les résultats.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres infos de la semaine en plus bref, nous avions parlé de la hausse des prix des denrées alimentaires cette semaine sur le marché de Kampene.
C'est à 150 km de la ville de Kindu, dans le Maniema, un gobelet de farine de manioc qui s'est vendu à 120 francs congolais, s'est négocié à 150, voire 200 francs, un verre de riz coûte 300 francs congolais au lieu de 240, une botte de légumes qui coûte d'habitude 100 francs s'est vend à 200 francs congolais, il en est de même pour d'autres produits vivriers. Les commerçants justifient cet état des choses par le mauvais état des routes des dessertes agricoles.
Un ralentissement des activités d'importation constaté au port international de Matadi cette année.
C'est le président des associations des commissionnaires et agences en douane professionnelles du Bas-Congo qui a fait ces constats devant la presse mardi à Matadi. Selon Jean-Luc Bekama, l'année se termine avec moins d'importations que l'année dernière.
Le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications Nouvelle technologie de l'information et de la communication sursoit à la décision de l'autorité de régulation des postes de télécommunications du Congo, la RPTC.
Par une de ces décisions, la RPTC avait attribué l'autorisation d'exploitation des stations VSAT à seulement trois opérateurs, notamment Cybernet Esperel, Ragasat Esperel et Vodacom Congo Esperel. Pour le ministre de PTT NTIC, c'est le ministre a le pouvoir d'attribuer les autorisations d'exploitation. L'autorité des régulations n'étant qu'un organe technique dont l'avis est souvent sollicité dans des circonstances précises.
Panorama économique, reportage.
Revendication salariale, les agents de la direction générale des recettes de Kinshasa ont envahi leur direction générale lundi. Ils réclamaient des améliorations sur leur barème salarial et l'amélioration des conditions de travail. Reportage d'Aimé Kabouya.
C'est cet après-midi que les agents de la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, DGRK, ont occupé la cour de leur bâtiment administratif à Gombe. Sur leur calico, on peut lire, les agents de la DGRK disent oui aux rubriques de la rémunération, oui à la justice sociale équitable et oui au respect des lois de la République. À en croire ces manifestants, leur directeur général devant l'ensemble provincial de Kinshasa aurait affirmé que les recettes de la régie avaient triplé durant son mandat. Or, en 2008, affirment ces manifestants, l'agent, avec un titre académique de licencié touché, 250 000 francs. Aujourd'hui, il en reçoit que 120 000, alors que les recettes sont passées de 9 millions de francs congolais en 2008 à plus de 3 milliards de francs congolais en 2012. Témoignage.
Notre DG, que nous aimons bien, à le Baki, a triplé recettes dans l'Assemblée provinciale. Mais, elle a triplé recettes dans le lobby de l'Assemblée provinciale. Mais, bien sûr, c'est la vie sociale. Il faut tout le monde en haut. Parce que, moi, il faut mon avis social, les bisous. Nous sommes mal payés.
C'est depuis 2007. 2008, excusez-moi, que la DGRK existe et que nous sommes passés de 250 000 francs congolais. On a revu le salaire à la baisse à 150 000 et nos recettes étaient à peu près 100 millions de francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 3 milliards 500 millions de francs congolais. Rien ne change.
En réponse à cela, le directeur général adjoint de la DGRK reconnaît la légitimité des revendications des manifestants. Mais selon lui, il revendique mal. Toutefois, Adela Matombe ne reconnaît pas que la DGRK réalise autant de recettes comme disent ses manifestants. On l'écoute.
Beaucoup de recettes, ce n'est pas mon point de vue. Parce que le niveau actuel des recettes ne correspond nullement aux potentialités de la DGRK. Et c'est à cela que nous sommes en train de sensibiliser les agents. Travaillons plus. C'est vrai que les conditions de travail laissent à désirer, mais je crois que dans les conditions actuelles, il y a un minimum à faire. Et nous pouvons le faire, ce minimum. Non, nous ne pouvons pas nous mettre comme ça à citer des chiffres. Vous savez, c'est un domaine très sensible.
Au nombre d'environ 200, ces manifestants dénoncent également le fait que la hiérarchie de la DGRK a toujours empêché les agents de se syndiquer. Notons qu'une force de la police a tenté de disperser les manifestants. Ceux-ci ont promis de revenir demain et les jours qui suivent jusqu'à ce que leurs revendications trouvent solution.
Voilà, vous avez suivi avec beaucoup d'attention, M. Serge, ce reportage-là. Il vous inspire quelque chose?
Oui.
Les conditions de travail précaires.
Oui, c'est vraiment ça. Vous savez, les conditions de travail précaires ne permettent pas aux travailleurs justement de faire un travail avec beaucoup de conscience, beaucoup de compétences lorsque les conditions ne sont pas réunies. Donc c'est aussi un amalgame, un problème que nous avons dans notre pays de pouvoir favoriser les conditions de travail, d'écouter les revendications des travailleurs et essayer alors de trouver un accord avec eux pour améliorer les choses.
Ça ne motive pas et ça ne donne pas un bon rendement à la fin.
Et voilà, et ça pousse les gens à ce qu'on appelle à chercher les madés sur Abana. Il a 1000 francs, mais il se dit, bon, je vais les canaliser dans la caisse de l'État et demain je ne serai pas payé. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Je prends 400 francs pour moi et 600, je verse dans la caisse.
Malheureusement, c'est comme ça qu'on voit les choses, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de formation, d'information. Il faut former les gens, il faut être de bonne foi à ce que on puisse favoriser le bien, le meilleur vivre de l'autre aussi.
Et voilà, nous allons terminer Panorama économique avec vous, Monsieur Serge, certainement avec vous, c'est-à-dire nous allons parler de votre association. On vous a présenté comme le président de l'association des hommes d'affaires africains de la diaspora. C'est trop fort ça. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association?
Nous sommes une organisation non gouvernementale créée depuis 2006 et notre organisation avait pour vocation de répondre aux certaines difficultés que les membres de la diaspora connaissent lorsqu'ils viennent ici en RDC, leur donner les meilleures informations, leur donner le climat d'affaires favorable et les accompagner dans leur entreprise.
Et c'est ce qui est fait?
C'est ce que
les difficultés sont réduites?
En tout cas, les difficultés ne sont pas réduites, mais on les a contournées. Voilà.
Mais vous parliez dans le cadre de vos activités, du financement des entreprises, pour qu'ils soient en bonne position et finalement arriver à bien négocier avec d'autres entreprises, d'autres essieux. Qu'en est-il juste? Comment fonctionnez-vous concrètement de ces points de vue-là?
Voilà, ben justement, nous finançons les entreprises ici au Congo. On finance à Kinshasa, on finance dans pratiquement toutes les provinces.
Jusqu'à hauteur de combien? Vous n'êtes pas une banque assez conséquente?
Non, mais c'est-à-dire nous finançons jusqu'à l'hauteur minimum de 50 000 dollars.
Et quels sont les projets que vous financez?
Le financement que nous faisons, c'est un financement intellectuel. Donc nous avons un package de services que nous apportons aux entreprises pour développer leurs activités et leur mettre dans une position de leader sur le marché.
Et quels sont les critères?
Voilà. Par exemple, pour donner quelques exemples des services que nous apportons aux entreprises, nous avons un service de consulting, par exemple, pour leur rechercher les meilleurs fournisseurs au monde par rapport aux denrées alimentaires, par exemple, qui auront des conditions favorables et des fournisseurs qui connaissent l'approche qu'on peut faire avec l'Afrique. On a des encadrements et du conseil dans le commerce international. Par exemple, nous trouvons des instruments bancaires, des lettres de crédit que nous mettons en faveur des entreprises qui importent de la marchandise. N'est-ce pas? Nous leur disons, bon, vous allez peut-être acheter en Chine, faites un conteneur avec du cash, ben, vous pourrez en faire 10 avec un instrument bancaire que nous allons mettre à votre faveur pour augmenter votre volume d'importation. Et nous leur favorisons pour ouvrir aussi des comptes de société, des comptes privés.
C'est bien bon, monsieur Serge, mais rentrons un peu dans le concret. Par exemple, ici à Kinshasa, il y a des Congolais qui vivent en Europe, que vous avez appuyé, que vous avez accompagné
aller dans leurs investissements en RDC? C'était peut-être dans quel secteur qu'on peut vérifier aujourd'hui?
Voilà, c'est dans plusieurs secteurs. Nous avons des Congolais que nous avons accompagnés pour la création des baleinières, par exemple. J'ai une équipe aujourd'hui qui est dans le Bandundu à Panou, à qui nous avons renforcé les matériaux pour faire la construction des bateaux en bois. Nous avons pu aider beaucoup de Congolais à commencer cette activité. Nous avons aidé d'autres Congolais dans la province du Kasaï pour les amener peut-être à développer l'agriculture au niveau des denrées comme le maïs. Nous avons fait beaucoup de projets de mines. Nous avons eu beaucoup d'investisseurs, pas simplement Congolais, mais des expatriés qui sont venus, qui ont utilisé nos compétences au niveau du service des informations pour les introduire ici, pour acheter des commodities.
Et peut-être, pour terminer, vous avez aussi un projet, alors vous, c'est au niveau de l'association à installer, à créer une banque d'affaires en RDC, c'est ça?
Bien sûr, nous sommes en train de créer, donc de lancer une banque d'affaires, donc qui est la Tumba Diamond Bank. C'est une banque qui aura une personnalité juridique un peu spéciale, parce que nous allons demander à avoir une zone offshore, n'est-ce pas? Nous allons développer des produits qui permettront de monétiser, donc de faire des levées de fonds avec des stocks que nous allons réaliser en diamant, en or, en coltan, en casétérite. Ils n'auront pas besoin de quitter le territoire congolais, ça pourra rester sur le territoire, et avec nos systèmes d'instruments bancaires, on pourra monétiser cela, on pourra faire des levées de fonds et réinvestir cet argent dans des infrastructures au niveau provincial.
Souvent on dit que les multinationaux utilisent, cachent derrière les Congolais comme ça pour venir avec des projets comme celui-là. Une fois installé, on ne voit plus le Congolais, il disparaît, ce sont ces gens-là qui prennent place. Et puis, est-ce que ce sera le cas avec vous?
Ben écoutez, moi je vais être franc avec vous. Tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai appris. Hein, je suis un homme d'affaires, je voyage, je rencontre beaucoup de monde, je suis membre d'une bourse de diamants internationale, je pars à Tel Aviv, je pars en Suisse. Donc ce que je vous raconte là, c'est ce que les autres pays ont fait et se sont développés, n'est-ce pas? Donc je vous dire maintenant que je n'ai personne derrière moi, c'est vous mentir. J'ai des gens derrière moi très très puissants, mais voilà, ce serait
des partenaires, ce qui n'est pas un péché dans le monde des affaires.
C'est des partenaires, mais il faut que j'attire l'attention que je suis Congolais, j'ai l'amour de mon pays et je défends mon pays. Quels que soient les partenaires avec qui je suis, je défends, je vois d'abord l'intérêt de mon pays, l'intérêt de ma population, avant de brader ou de signer n'importe quoi.
On attend avec impatience la concrétisation de ces projets.
Mais la Tumba Diamond Bank va dans
un... Quand bien même ce ne sera pas une banque de l'État, du gouvernement, c'est la banque d'un Congolais, fils du pays.
Voilà.
Quand même, il faudra mettre aussi la main à l'amélioration des conditions de
vie. Mais bien sûr, mais c'est le but même de cette banque. Donc l'objectif de cette banque, c'est relever le niveau économique de notre pays. On va renforcer nos entreprises.
Mais est-ce que vous avez déjà évalué les risques? Parce qu'il y a déjà des banques qui sont présentes en RDC, qui accordent quand même des prêts, mais à des taux trop élevés, parce que le risque aussi est trop élevé en RDC.
Ben, vous savez, nous n'allons pas agir comme ces banques. La plupart des banques que vous avez citées, ce sont des banques étrangères. Ils n'ont pas d'intérêt. Donc, je veux dire, les intérêts de ces banques, c'est voir la rentabilité. Moi, effectivement, si je suis une banque, on ne fait pas du social. Mais notre intérêt sera plus visé dans le long terme. Vous savez, c'est ça le problème avec l'Afrique, c'est que tous ces gens qui viennent ici veulent faire des affaires, donc surtout les expatriés, et gagner directement. Donc on ne veut pas laisser l'argent dormir ici au Congo.
On peut l'attendre dans combien de temps encore cette
banque? En janvier, dans quelques semaines, on termine les démarches administratives. Vous savez comment on souffre aussi de lourdeur ici, mais d'ici janvier, la banque sera déjà existante.
Merci beaucoup, Monsieur Serge Tumba. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans ce studio de Panorama Économique qui fait la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Merci et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous passez dans nos studios.
Merci beaucoup.
À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radiocapu.net. L'actualité économique, c'est déjà le lundi, 18h04, heure de Kinshasa, dans Écho d'économie. Au revoir. Et bonne fin de semaine.